Chapitre 3. Continuation du même sujet. La force du corps qui distinguait autrefois les héros est maintenant tombée dans un tel discrédit que les hommes et les femmes semblent s'accorder à la regarder comme inutile. Les dernières, parce qu'elles nuisent à leur grâce féminine, à leur séduisante faiblesse sur laquelle elles fondent leur pouvoir, et les autres, parce que la force physique, bonne pour un portefeuille, ne sied point à un homme d'un certain rang. Il est aisé de prouver qu'en partant d'un extrême, on est tombé dans l'autre, mais il est à propos d'observer qu'on a donné cours à une erreur vulgaire qui a renforcé cette fausse conclusion dans laquelle l'effet a été pris pour la cause. Les hommes de génie ont fréquemment altéré leur constitution par l'étude, par le peu de soin qu'ils ont pris de leur santé, et par la violence de leurs passions, qui se trouvaient proportionnées à la force de leur intelligence. Il est presque devenu proverbe que chez eux la lame use le fourreau. Des observateurs superficiels en ont conclu que les hommes de génie étaient communément faibles ou, pour employer une phrase usitée chez les gens de bon ton, d'une constitution délicate. Je crois cependant que l'expérience fournit la preuve du contraire. Je trouve, après bien des recherches, que la force de l'esprit s'est souvent réunie à une force supérieure de corps, ce qui forme la santé naturelle de la constitution, et non ce ton robuste des nerfs, ni cette vigueur des muscles, qui est le produit du travail corporel, quand l'esprit se repose ou se borne à diriger les mains. Le docteur Priestley a remarqué dans la préface de sa biographie que la majeure partie des grands hommes avaient vécu au-delà de 45 ans, et considérant la manière insouciante avec laquelle ils avaient débilité leur force, lorsque tout entier à une science favorite ils usaient la lampe de la vie, oubliant l'heure à minuit, ou quand, perdus dans des rêves poétiques, se livrant au délire de l'imagination, au dérangement de leur âme, jusqu'à ce que leur constitution fût ébranlée, fatigués plutôt que rassasiés de ces sortes de méditations, il est bien évident qu'il fallait qu'ils eussent reçu de la nature une complexion de fer. Shakespeare ne saisit jamais le poignard tragique d'une main débile. Milton ne trembla point lorsqu'il conduisit Satan au-delà des bornes de son obscure prison. Ses rêves ne sentent point la faiblesse. Ils ne sont pas le produit d'un cerveau dérangé, mais les excursions d'une imagination ardente qui s'égarerait dans son enthousiasme si elle n'était continuellement rappelée à ses entraves matérielles. Je dois éviter que cette digression ne m'écarte de mon sujet, mais je cherche la vérité, et toujours attaché à ma première thèse, j'accorde que la force physique semble donner à l'homme une supériorité naturelle sur la femme, et c'est en effet la seule base solide sur laquelle on puisse établir cette supériorité. Mais je soutiendrai toujours que non seulement les vertus, mais la science des deux sexes sont les mêmes dans leur nature, et ne diffèrent que par le degré d'intensité. Que les femmes, considérées comme des êtres moraux et raisonnables, doivent tâcher d'acquérir les vertus ou les perfections humaines par les mêmes moyens que les hommes et ne pas être élevées comme une espèce enfantine, une moitié d'être, suivant le paradoxe de Rousseau. Mais si les hommes se vantent, avec quelque apparence de raison, de leur force physique, comment les femmes sont-elles assez insensées pour s'enorgueillir d'un défaut? Rousseau leur fournit une excuse spécieuse qui ne pouvait se présenter qu'à un homme dont l'imagination avait le privilège de s'égarer et de renchérir sur les impressions les plus subtiles des sens les plus exquis. C'est afin qu'elles puissent avoir un prétexte de suivre leur goût naturel sans déroger à cette pudeur romantique qui satisfait l'orgueil et le libertinage de l'homme. Les femmes, abusées par ces opinions, se vantent quelquefois de leur faiblesse et prennent de l'empire sur celle des hommes par ce jeu de leur vanité. Elles peuvent bien alors se glorifier de leur puissance illicite, car, comme les bachas de Turquie, elles ont un pouvoir plus réel que leur maître. Mais la vertu est sacrifiée à des satisfactions passagères et l'estime de toute la vie au triomphe d'une heure. Les femmes et les despotes ont peut-être en ce moment plus de pouvoir qu'ils n'en auraient si le monde, divisé et subdivisé en royaumes et en familles, était régi par les lois de la raison. Mais cette usurpation les dégrade de leur dignité naturelle et avilit toute la société, car le grand nombre devient le piédestal du petit. J'ose donc assurer que, jusqu'à ce que les femmes reçoivent une éducation plus raisonnable, les progrès des vertus et des connaissances humaines sera continuellement entravé. Et s'il est vrai que la femme n'est pas uniquement été formée pour les désirs de l'homme, ni pour être sa servante d'un rang supérieur, il s'ensuit que le premier soin des pères et des mères qui s'occupent réellement de l'éducation de leurs filles doit être, sinon de leur fortifier le corps, du moins de ne pas détruire leur constitution par de fausses notions de beauté et de délicatesse féminine. On ne doit pas souffrir non plus que des jeunes filles se persuadent, malgré tous les sophismes, qu'un défaut puisse jamais devenir une perfection. Mais fût-il reconnu que la femme est plus faible que l'homme, s'ensuit-il qu'il faut qu'elle travaille à se débiliter encore, à devenir plus faible que la nature n'a prétendu qu'elle le fût, c'est outrager le sens commun. Il faut espérer qu'on pourra, dans ce siècle éclairé, combattre sans danger le droit divin des maris comme le droit divin des rois. Et quoi qu'on ne puisse pas se flatter de les convaincre tous, il est pourtant vrai que, quand on attaque un préjugé dominant, les sages examinent et laissent les insensés crier à l'innovation. Une mère qui veut que sa fille ait de la dignité dans le caractère doit, en méprisant le sourire de l'ignorance, suivre un plan diamétralement opposé à celui que Rousseau a mis en réputation par les charmes d'une éloquence trompeuse et d'une philosophie sophistique. Car l'éloquence de cet écrivain pallie les absurdités et sa manière tranchante entraîne, sans les convaincre, ceux qui ne sont pas en état de le réfuter. Dans tout le règne animal, la jeunesse demande un exercice presque continuel. L'enfance devrait donc être consacrée à ces jeux qui exercent machinalement les mains et les pieds sans que la tête s'en mêle et sans qu'il faille l'attention continuelle d'une gouvernante. Dans le fait, le soin nécessaire à sa propre conservation est la première étude de l'entendement, comme les petites inventions d'amusement sont le premier développement de l'imagination. Mais ces sages intentions de la nature sont contrariées par les méprises de la tendresse et d'un zèle aveugle. L'enfant n'est pas un seul instant abandonné à lui-même, surtout si c'est une fille. Et après les avoir rendus dépendants, on appelle cette dépendance naturelle. Pour l'intérêt de la beauté dans laquelle on fait consister la gloire des femmes, on suit à leur égard une méthode pire que celle des Chinois. On enchevêtre leurs membres et leurs facultés, et la vie sédentaire à laquelle on les condamne, tandis que les enfants jouent en plein air, affaiblit les muscles et relâche les nerfs. Quant à l'observation de Rousseau, répétée depuis par différents écrivains, que les femmes, indépendamment de leur éducation, ont un goût naturel pour les poupées, la toilette, le caquetage, elle est si puérile qu'elle ne mérite pas une réfutation sérieuse. Qu'une fille condamnée à écouter des heures entières le babil insignifiant de sa bonne, ou d'assister à la toilette de sa mère, tâche de se mêler à la conversation, c'est en effet une chose très naturelle. Qu'elle s'amuse à orner sa poupée à l'imitation de ce qu'elle a vu faire à la toilette de sa mère ou de ses tantes, c'est encore une conséquence bien naturelle de sa position. Car les hommes du plus grand mérite ont rarement la force de ne pas se laisser influencer par ce qui les entoure. Et si la page du génie est toujours tachée des préjugés de son siècle, comment ne pas passer quelque chose à un sexe qui, semblable au roi, ne voit les objets qu'à travers un milieu qui les défigure? Il est donc facile de rendre raison du goût des femmes pour la parure, sans supposer qu'il provient du désir qu'elles ont de plaire au sexe qui les tient dans sa dépendance. L'absurdité d'imaginer qu'une fille est naturellement coquette et que cette coquetterie se manifeste en elle avant même qu'une vicieuse éducation, en enflammant son imagination, ait prématuré ce défaut, cette absurdité, dis-je, est si peu philosophique qu'un observateur tel que Rousseau ne l'aurait point adopté s'il n'avait été dans l'habitude de sacrifier la raison à la singularité et la vérité au paradoxe. Tout cela ne s'accorde guère avec les principes d'un homme qui a soutenu avec tant de chaleur la thèse de l'immortalité de l'âme. Mais la vérité est une bien faible barrière quand elle se trouve sur la route d'une hypothèse. Rousseau respectait, adorait presque la vertu. Cependant, il ne se refusait point l'amour sensuel. Son imagination brûlante enflammait continuellement ses sens. Mais afin de concilier avec ses penchants, son respect pour les privations, le courage et les vertus héroïques qu'un esprit tel que le sien ne pouvait admirer froidement, il travailla à intervertir la loi de la nature et sema une doctrine désastreuse, absolument contraire au caractère de la suprême sagesse. Ces contes ridicules, pour prouver que les jeunes filles sont naturellement soigneuses de leur personne, sans s'appuyer de l'exemple journalier, ne méritent que le mépris. Celui de la petite demoiselle dont le goût est si délicat qu'elle renonce à l'amusement de tracer des O sur le papier parce qu'elle s'aperçoit que cette occupation lui fait prendre une attitude désagréable, ce conte, dis-je, peut être recueilli avec les anecdotes du chien savant. J'ai sans doute eu plus d'occasion que Rousseau d'observer des filles dans leur enfance et je sais me rendre compte de mes sensations. Cependant, loin de partager son opinion sur la première tendance du caractère des femmes, j'ose assurer qu'une fille dont la vivacité ne serait pas contenue par une inaction forcée ou par une fausse honte se livrerait à des jeux d'exercice et ne s'occuperait de poupées que, lorsqu'étant renfermée, elle n'aurait pas le choix de ses amusements. En un mot, les enfants des deux sexes joueraient innocemment ensemble si l'on n'en marquait pas la distinction longtemps avant que la nature y mette aucune différence. Je vais plus loin, et j'affirme qu'autant que mes observations ont pu s'étendre, j'ai vu que presque toutes les femmes qui ont montré quelque force d'esprit et de raison avaient reçu par hasard une éducation virile que quelques élégants instructeurs du beau sexe appellent « sauvage ». Les funestes conséquences du peu de soins qu'on donne au physique dans l'enfance et dans la jeunesse s'étendent plus loin qu'on ne le suppose. La dépendance du corps produit naturellement celle de l'âme. Comment remplira-t-elle exactement les devoirs d'épouse et de mère, celle qui, la plupart du temps, souffre des maladies ou s'occupe à les prévenir? Il ne faut pas non plus espérer qu'une femme cherche à fortifier sa constitution, à s'abstenir des délicatesses qui l'énervent, si des notions artificielles de beauté et d'une sensibilité fausse se sont de bonheur liées au motif de ses actions. Les hommes sont quelquefois obligés de se prêter aux incommodités des lieux et des temps. Ils ne peuvent pas toujours se douilleter. Mais les jolies femmes sont véritablement esclaves de leur personne et se glorifient de leur servitude. J'ai connu une de ces femmes, plus vaine qu'on ne l'est communément, de sa délicatesse et de sa sensibilité. Elle mettait au premier rang des perfections humaines un goût recherché, un léger appétit, et se conduisait d'après ce principe. J'ai vu cet être débile négliger tous les devoirs de la vie pour s'étendre complaisamment sur un sofa, parlant avec ostentation de son manque d'appétit comme d'une preuve de délicatesse à laquelle elle devait son exquise sensibilité, ou qui, peut-être, en était le résultat. Car il est difficile d'entendre quelque chose à ce ridicule jargon. Eh bien, dans le moment où elle faisait l'étalage de sa sensibilité, je l'ai vu insulter une dame âgée et respectable que des malheurs imprévus avaient mise dans la dépendance de sa bonté fastueuse et qui, dans des temps plus heureux, s'était acquis des droits à sa reconnaissance. Est-il possible qu'à moins de n'avoir reçu aucun principe ou d'avoir usé toute vertu dans la mollesse, comme les sybarites, est-il possible, dis-je, qu'une créature humaine puisse tomber dans cet excès de faiblesse et de dépravation? Une femme semblable n'est pas plus monstre de déraison que quelques empereurs romains dépravés par le pouvoir arbitraire. Cependant, depuis que les rois sont plus assujettis aux lois et aux faibles freins de l'honneur, l'histoire n'offre pas de pareils exemples de folie et de cruauté, et le despotisme qui étouffe le germe des vertus et du génie n'opère plus de semblables ravages en Europe, si l'on en excepte la Turquie, où il frappe de stérilité le sol et les âmes. Mais partout, il est le même pour les femmes, car sous le prétexte de conserver leur innocence, mot poli dont on se sert pour qualifier l'ignorance dans laquelle on les retient, on leur soustrait la vérité pour leur faire prendre un caractère artificiel avant qu'elles puissent faire usage de leurs facultés. Endoctrinées dès l'enfance à regarder la beauté comme le sceptre des femmes, leur esprit devient l'ombre de leur corps et tournant continuellement autour de sa cage dorée, il ne cherche qu'à orner sa prison. Les hommes sont forcés de diviser leur attention sur la diversité de leurs emplois et de leurs projets. Cette variété donne de l'extension à leur intelligence. Mais toute l'attention des femmes est renfermée dans un seul objet, et leur pensée n'étant constamment dirigée que vers la partie la plus insignifiante d'elle-même, rarement leur vue s'étend-elle au-delà du triomphe du moment. Si leur entendement était une fois affranchi de la servitude dans laquelle le retient l'orgueil et le libertinage de l'âme, ainsi que leurs désirs imprévoyants comme ceux des tyrans de nos jours, nous lirions, sans doute avec surprise, l'histoire de leur faiblesse qui nous paraîtrait exagérée. Peut-être s'il existait réellement un être méchant qui, suivant le langage allégorique de l'Écriture, chercha continuellement à dévorer, le plus sûr moyen qu'il pourrait trouver de dégrader l'espèce humaine serait de donner à l'homme le pouvoir absolu. Cette concession se divise en plusieurs ramifications. La naissance, les richesses et tous les avantages extérieurs qui élèvent l'homme au-dessus de ses compagnons, sans que l'esprit y ait aucune part, finissent par le ravaler au-dessous d'eux. On épie sa faiblesse, on le cajole jusqu'à ce que, à force de s'enfler, il ait perdu toutes les traces de l'humanité. Que les différentes races d'hommes se laissent conduire comme des troupeaux de moutons, c'est un contresens qu'on ne peut expliquer que par la faiblesse de l'entendement et les séductions de l'imprévoyance. Élevés dans une dépendance servile, énervés par le luxe et la paresse, où trouverons-nous des êtres assez intrépides pour assurer les droits de l'homme, pour réclamer ce privilège de la raison qui, pour s'élever, n'a qu'une voix? Le despotisme des rois et des ministres n'est-il pas encore là pour étouffer les progrès de l'esprit humain? Ne souffrez donc pas que les hommes, dans l'orgueil de leur pouvoir, emploient, pour le perpétuer, les mêmes raisonnements que les tyrans et les ministres qui leur sont vendus. Qu'ils assurent traîtreusement que les femmes doivent être toujours asservies, parce qu'elles l'ont toujours été. Mais quand l'homme, gouverné par les lois de la raison, jouira de sa liberté naturelle, qu'il méprise la femme si elle ne la partage pas avec lui. Mais jusqu'à ce que nous en soyons à cette glorieuse époque, que l'extravagance du sexe ne lui fasse pas oublier la sienne. Il est vrai que les femmes, quand elles obtiennent l'autorité par des moyens injustes, en pratiquant ou entretenant le vice, perdent le rang que la raison leur assigne et deviennent esclaves abjects ou tyrans capricieux. En acquérant du pouvoir, elles perdent la dignité du caractère et agissent comme on voit agir les hommes lorsqu'ils s'élèvent par les mêmes moyens. Il est temps d'opérer une révolution dans les mœurs des femmes. Il est temps de les rétablir dans leur dignité naturelle et de les faire contribuer, comme partie de l'espèce humaine, à la réforme du genre humain en les réformant elles-mêmes. Il est temps que les habitudes locales cèdent la place aux principes éternels de la morale universelle. Si les hommes sont de demi-dieux, pourquoi souffrent-ils que nous les servions? Si la dignité de l'âme féminine est aussi équivoque que celle des animaux, si pour se conduire les femmes n'ont ni la raison ni l'instinct, elles sont certainement les plus misérables de toutes les créatures. Courbées sous le joug de fer du destin, elles doivent se résigner à n'être qu'un joli défaut dans la création. Mais il serait bien difficile au casuiste le plus subtil de trouver quelque bonne raison pour justifier la Providence d'avoir voulu qu'une aussi grande partie de l'espèce humaine fût et ne fût pas responsable de sa conduite et de ses actions. La seule base solide de la moralité paraît caractériser l'être suprême. Elle tire son harmonie de l'équilibre des attributs divins. Et pour parler avec plus de référence, un attribut semble impliquer la nécessité d'un autre. Il faut que l'être suprême soit juste parce qu'il est sage, qu'il soit bon parce qu'il est tout-puissant, car élever un attribut au-dessus d'un autre, également noble, également nécessaire, est une chose qui ne convient qu'à la raison flexible de l'homme. C'est l'ouvrage de la passion. L'homme, accoutumé à fléchir devant le pouvoir, dans son état sauvage, se dépouille rarement de ce préjugé barbare, lors même qu'il voit, par la civilisation, que la force mentale est supérieure à la force physique, lors même qu'il tourne ses pensées vers la divinité. On veut que la toute-puissance de Dieu l'emporte sur ses autres attributs. Quelle est la prééminence? Et ceux qui pensent qu'elle doit être réglée par sa sagesse sont regardés comme des sacrilèges qui entreprennent irrévérencieusement de limiter le pouvoir divin. Je n'adopte point cette humilité spécieuse qui, après avoir étudié la nature, s'arrête devant son auteur. L'Éternel a sans doute des attributs dont nous ne pouvons former aucune idée. Mais ma raison me dit que ces attributs inconnus ne peuvent pas être en contradiction avec ceux que j'adore, et je me sens entraîné à les imiter. Il semble naturel à l'homme de chercher l'excellence et de croire la découvrir dans l'objet que son enthousiasme ou son aveuglement a, pour ainsi dire, revêtu de perfection. Mais quel bon effet un culte non raisonné peut-il avoir sur la conduite d'un être moral et raisonnable? Il ne voit qu'un nuage épais qui peut s'ouvrir pour lui présenter une brillante perspective ou un abîme de désolation dans lequel on peut le plonger arbitrairement. En supposant que Dieu agisse d'après une volonté capricieuse, l'homme doit aussi suivre sa propre volonté ou se conformer à des lois dont il désavoue les principes comme irrévérencieux. Les enthousiastes et les froids penseurs sont tombés dans ce dilemme quand ils ont voulu affranchir l'homme des salutaires barrières que lui oppose une juste notion de la divinité. On peut donc analyser sans impiété les attributs de l'être suprême et, dans le fait, peut-on se refuser à ces exercices de nos facultés? Aimer Dieu comme la source de la sagesse, de la bonté, de la puissance, me paraît le seul culte profitable à un être qui désire acquérir la science ou la vertu. Une affection aveugle et non raisonnée peut, comme les passions humaines, occuper l'esprit et échauffer le cœur, sans nous porter à la pratique de la justice, de la charité et de l'humilité religieuse. Je m'étendrai davantage sur cette matière quand je considérerai la religion sous un autre point de vue que le docteur Grégory, qui voudrait en faire un objet de sentiment ou de goût. Pour revenir de cette digression apparente, il serait à désirer que les femmes eussent pour leur mari une affection fondée sur des principes semblables à ceux sur lesquels doit porter la dévotion. Je ne connais pas sous le ciel de base plus solide, car qu'elles se gardent de la fausse lueur du sentiment. Ce mot ne désigne souvent que l'appétit des sens. Je crois donc que les femmes, dès leur enfance, devraient être enfermées comme les princes orientaux, ou élevés de manière à penser et à agir pour elles-mêmes. Comment les hommes peuvent-ils s'arrêter entre deux opinions et se promettre un résultat impossible? Quelle vertu peuvent-ils attendre d'une esclave, d'un être que la constitution civile de la société rend faible si elle ne le rend pas vicieux? Quoique je sache très bien qu'il faut un temps considérable pour extirper les préjugés profondément enracinés qu'ont plantés les sensualistes, il en faut aussi pour convaincre les femmes qu'elles vont contre leurs vrais intérêts quand, sous le nom de délicatesse, elles préconisent ou affectent la faiblesse. Et pour persuader au monde que la source empoisonnée des vices et des folies des femmes gît dans l'hommage sensuel qu'on paye à la beauté de la figure. Car un écrivain germanique a ingénieusement observé qu'une jolie femme est généralement un objet de désir pour les hommes de tout caractère, tandis qu'une belle femme qui inspire des sentiments plus sublimes par le développement de sa beauté intellectuelle peut être dédaignée ou regardée avec indifférence par ces hommes qui font consister leur bonheur dans la satisfaction de leurs appétits sensuels. Tant que l'homme restera dans l'état d'imperfection où il paraît avoir été jusqu'à ce moment, il sera toujours plus ou moins esclave de ses appétits. Or, ces femmes chétives, obtenant la préférence, le sexe est dégradé par une nécessité physique, s'il ne l'est point par une cause morale. J'ose assurer que cette objection est de quelque poids. Mais d'après le précepte sublime, « Soyez purs comme votre Père céleste est pur », il semble que les vertus de l'homme ne soient pas bornées par l'être qui peut seul les imiter, qu'il peut les étendre sans examiner s'il sort de sa sphère en se livrant à cette noble ambition. Il a été dit au flot, « Vous n'irez pas plus loin. Ici se brisera l'orgueil de vos vagues. » Il s'agite donc vainement, toujours retenu par le pouvoir qui circonscrit les planètes dans leurs orbites. La matière obéit à l'esprit qui la dirige. Mais une âme immortelle, n'étant retenue par aucune loi mécanique et travaillant à s'affranchir elle-même des entraves matérielles, ne dérange point l'ordre de la création. Elle y contribue, au contraire, lorsque, coopérant avec le Père des esprits, elle essaye de se gouverner elle-même par la loi invariable qui règle l'univers à un point qui passe notre imagination. D'ailleurs, si les femmes sont dévouées à la dépendance, s'il faut qu'elles suivent la volonté d'un être faillible comme elles, si elles doivent se soumettre à un pouvoir arbitraire, où nous arrêterons-nous? Seront-elles considérées comme de vice-gérantes établies pour régner sur un petit domaine et responsables de leur conduite à un tribunal supérieur mais non infaillible? Il ne sera pas difficile de prouver que ces délégués agiront comme les hommes subjugués par la crainte et qu'elles feront supporter leur tyrannique oppression à leurs enfants et à leurs domestiques. Leur assujettissement n'ayant aucune raison, elles n'en mettront pas davantage dans leur conduite. Elles seront tendres ou cruelles suivant l'inspiration du moment, et ne soyons pas surpris si, fatiguées du joug, elles essaient de le faire partager à des êtres plus faibles encore. Mais supposons qu'une femme, élevée pour l'obéissance, devienne l'épouse d'un homme sensible qui dirige son jugement sans lui faire sentir la domination. Elle agira plus convenablement, sans doute, comme on peut l'espérer de quelqu'un qui reçoit la raison de la seconde main. Mais elle ne peut pas répondre de la vie de son tuteur. Il peut mourir et la laisser avec une nombreuse famille. Un double devoir repose sur sa tête. Il faut qu'elle réunisse le caractère paternel et maternel dans l'éducation de ses enfants. Qu'elle leur donne des principes et soigne en même temps leur fortune. Mais hélas, elle n'a jamais pensé, encore moins agi par elle-même. On lui a seulement appris à plaire aux hommes, à se soumettre gracieusement à leur dépendance. Cependant, chargée d'une nombreuse famille, comment trouvera-t-elle un autre protecteur? Un mari qui supplée le défaut de raison, un homme raisonnable, car nous ne parlons point ici d'une passion romanesque. Et quand la mère serait à son gré, l'amour ne lui fera point épouser toute une famille. Il ne lui sera pas difficile de trouver dans le monde des femmes plus aimables encore. Que deviendra donc cette infortunée? Ou elle sera la proie facile de quelque pourchasseur de fortune qui dépouillera ses enfants de l'héritage paternel et la rendra misérable, ou elle deviendra la victime d'une aveugle complaisance, incapable d'élever ses enfants, ni de leur imprimer le respect. Car ce n'est pas jouer sur le mot que d'assurer que, quelque rang qu'on occupe, on n'est point respecté si l'on n'est pas respectable. Elle languit sous l'angoisse de regrets impuissants et inutiles. Un ver rongeur la déchire, les vices d'une jeunesse licencieuse la font expirer de douleur et peut-être aussi d'indigence. Ce tableau n'est point chargé, c'est un événement très possible. Il n'est point d'observateur qui n'ait été à portée de voir quelque chose de semblable. J'ai admis toutefois, dans l'hypothèse précédente, que la femme avait été bien dirigée, quoique l'expérience prouve qu'un aveugle peut tout aussi facilement être conduit dans un fossé que dans un grand chemin. Mais supposons, ce qui n'est point tout à fait invraisemblable, qu'une femme à laquelle on a enseigné qu'à plaire trouve son bonheur à remplir cette destination. Quel exemple de folie, pour ne pas dire de vice, ne serait-elle pas pour ces innocentes filles? Vous aurez une coquette et non pas une mère. Elle haïra ses filles, qu'elle regardera comme ses rivales, rivales plus cruelles qu'aucune autre. Parce qu'elles invitent à la comparaison et lui disputent le trône de la beauté, d'où elle n'a jamais cru qu'elle dût descendre pour occuper le trône de la raison. Il n'est pas besoin d'un pinceau vigoureux, ni d'employer la caricature pour retracer les misères domestiques et jusqu'aux moindres inconvénients que sème autour d'elle une semblable mère de famille. Qu'elle se conduise d'après le système de Rousseau, on ne lui reprochera point de vouloir être homme ou de sortir de sa sphère. Je veux encore qu'elle observe un autre grand principe de ce philosophe, c'est-à-dire qu'elle conserve soigneusement sa réputation, on la regardera comme une femme excellente. Cependant, sur quoi sera-t-elle fondée, cette excellence? Elle s'abstient, il est vrai, des fautes grossières. Mais comment remplit-elle ses devoirs? Des devoirs! Elle a vraiment bien le temps de s'en occuper. Ne faut-il pas qu'elle se pare ou qu'elle soigne sa faible santé? À l'égard de la religion, elle n'a pas la présomption d'en juger par elle-même. Mais soumise, comme une créature dépendante doit l'être, aux cérémonies de l'Église dans laquelle on l'a élevée, elle croit pieusement ce que des têtes plus sages que la sienne ont décidé à cet égard, et elle ne doute pas qu'il n'ait trouvé le point de perfection. Elle paye donc exactement la dîme et remercie Dieu de n'être pas comme les autres femmes. Tels sont les heureux effets d'une bonne éducation. Telles sont les vertus de la compagne de l'homme. Je vais me soulager moi-même en traçant un autre tableau. Supposons maintenant une femme d'une intelligence ordinaire, car je ne veux pas m'écarter de la ligne de la médiocrité. Supposons, dis-je, que la constitution de cette femme, renforcée par l'exercice, a donné à son corps toute la vigueur dont il est susceptible. Son esprit, se développant en même temps, est parvenu par gradation à connaître les devoirs moraux de la vie, à savoir en quoi consiste la vertu et la dignité humaine. Élevée de la sorte, en remplissant les devoirs de son état, elle se marie par inclination, toutefois sans imprudence et sans perdre de vue les suites du mariage. Elle s'assure le respect de son mari, avant qu'il soit nécessaire de s'ingénier pour lui plaire et pour nourrir une plante mourante que la nature condamne à périr quand l'objet en devient familier, quand l'habitude et l'amitié prennent la place d'un sentiment plus ardent. C'est la mort naturelle de l'amour, et la paix domestique n'est pas détruite par les efforts qu'on fait pour la prévenir. Je suppose aussi que le mari est vertueux, car s'il ne l'est point, la femme a un plus grand besoin de l'indépendance des principes. Toutefois, le sort vient rompre ses nœuds. La voilà veuve, et peut-être avec peu de ressources. Mais elle ne perd point le courage. Elle sent son malheur, sans en être accablée. Quand le temps, adoucissant ses regrets, lui a inspiré quelque résignation, son cœur se tourne vers ses enfants avec un redoublement de tendresse et de sollicitude pour eux. Le sentiment imprime quelque chose de sacré, d'héroïque, à ses devoirs maternels. Elle ne songe pas seulement que le public est témoin de ses vertueux efforts, d'où doivent résulter sa consolation et l'approbation de sa vie. Mais l'imagination exaltée par la douleur, elle se complaît dans la douce espérance que les yeux que sa main tremblante a fermés pourront la voir, supportant tous les obstacles, pour remplir les doubles devoirs de père et de mère de ses enfants. Parvenue à l'héroïsme par l'infortune, elle se refuse aux séductions de l'amour, et, dans la fleur même de l'âge, elle oublie son sexe. Elle oublie le charme d'une passion naissante qu'elle pourrait encore inspirer et partager. Elle ne songe plus à plaire, et le sentiment de sa dignité prévient en elle l'orgueil d'une conduite digne d'éloge. Ses enfants ont son amour, et ses espérances les plus brillantes sont au-delà du tombeau, dans un avenir où son imagination se plaît souvent à s'égarer. Je crois l'avoir entourée de ses enfants, recueillant le fruit de sa tendre sollicitude. L'innocence et la santé sourient sur leurs visages potelés, et à mesure qu'ils grandissent, leur attention reconnaissante la soulage des soins de la vie. Elle vit pour les voir pratiquer les vertus dont elle a tâché de leur donner les principes, pour les voir parvenir à une force de caractère qui les mette en état de supporter l'adversité et de montrer le courage dont elle leur a donné l'exemple. C'est ainsi qu'après avoir rempli la tâche de la vie, elle s'endort paisiblement dans les bras de la mort et peut dire en s'éveillant « Vous ne m'aviez donné qu'un talent et en voilà cinq. » Je vais me résumer en peu de mots, car ici je jette le gant et je nie l'existence des vertus sexuelles sans en accepter la modestie. La vérité, si j'entends la signification de ce mot, doit être la même pour les hommes et pour les femmes. Cependant, le caractère de fantaisie que les poètes et les romanciers donnent aux femmes exige le sacrifice de la vérité. La vertu devient une idée relative, sans autre base que l'utilité, et les hommes se prétendant les juges arbitraires de l'utilité de la vertu la déterminent sur leur propre convenance. J'accorde que les femmes aient des devoirs différents à remplir, mais ce sont des devoirs humains, et je soutiens effrontément que les principes doivent en être les mêmes. Pour qu'elles soient respectables, il faut de toute nécessité qu'elles exercent leur entendement, car il n'est point d'autre base à l'indépendance du caractère. C'est dire explicitement qu'au lieu d'être les modestes esclaves de l'opinion, elles ne doivent se rendre qu'à l'autorité de la raison. D'où vient que dans les rangs supérieurs, on trouve si rarement un homme doué, je ne dis pas de talent supérieur, mais même des connaissances les plus communes. La raison en est simple, c'est qu'ils naissent dans un état non naturel. Le caractère humain s'est toujours formé par les occupations individuelles ou par des opérations collectives. et si nos facultés n'étaient point aiguisées par la nécessité, elles resteraient obtuses. Il est aisé d'appliquer ce raisonnement aux femmes, car rarement sont-elles occupées de choses sérieuses. La poursuite du plaisir donne à leur caractère cette insignifiance qui rend la société des grands si insipide. Le même défaut de solidité produit par une cause semblable les force à se dérober à eux-mêmes, à se fuir pour chercher des plaisirs bruyants et des passions artificielles, jusqu'à ce que la vanité, prenant la place de chaque affection sociale, on puisse à peine discerner les traits caractéristiques de l'humanité. Les bienfaits des gouvernements, tels qu'ils sont maintenant organisés, font que la richesse et l'inertie des femmes tendent également à dégrader le genre humain. Mais si l'on accorde que les femmes sont des créatures raisonnables, elles doivent être excitées à acquérir des vertus qui soient véritablement à elles. Car comment un être raisonnable peut-il relever sa condition par quelque chose dont il ne soit pas redevable à ses propres investigations?